Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les parts actualités. En manchette, en ce 20 décembre 2017, le ministre Barrette leur refuse le seul médicament pour soulager leurs enfants. Grippe et gastro-entérite, le ministère de la Santé et des Services sociaux appelle à la vigilance. Sans logis pour changer la vie de 100 personnes, aussi Air Canada porte haut le drapeau grâce à son partenariat renouvelé avec l'équipe olympique et l'équipe paralympique. En entrevue, je reçois Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, le RUTA, et Karine Gagné, présidente et fondatrice de l'entreprise FDMT, qui nous parlera entre autres des ateliers Pédago-Truc. Nouvelle dans le Journal de Montréal, Barrette leur refuse le seul médicament pour soulager leurs enfants. Des parents sont furieux d'apprendre que le ministre de la Santé suivra la recommandation de ne pas rembourser le seul médicament pouvant soulager leurs enfants atteints d'une maladie dégénérative rare. Ils préfèrent me mettre des tiges de métal dans le dos plutôt que de payer pour mon médicament, a lâché Ophélie 8 ans sur le bord des larmes après avoir entendu le ministre. Le journal rapportait hier que l'Institut d'excellence en santé et en services sociaux, INES, venait de recommander de ne pas payer pour le nusinersen. Il s'agit, selon plusieurs études, du seul médicament pouvant réduire et renverser la dégénérescence des enfants atteints d'amyotrophie spinale, une maladie rare qui s'attaque au système musculaire au coût de 350 000 $, dis-je bien, par année. Une quinzaine de parents qui fondaient l'espoir que le ministre infirme cette décision sont allés à sa rencontre hier en marge d'un événement caritatif qui avait lieu dans un centre socioculturel à Brossard. Mais Gaétan Barrette leur a répondu qu'il ne ferait rien. Le médicament est inefficace, selon l'INES, a-t-il rappelé. Je voudrais qu'on puisse donner tous les médicaments, même expérimentaux, mais on est dans une société qui doit faire des choix. Et ces choix, on les fait sur une base la plus rationnelle possible, a-t-il déclaré avant de rencontrer les parents dans une pièce où les journalistes n'étaient pas admis. Quelques instants plus tard, une mère en pleurs est sortie pour s'enfermer dans les toilettes, d'où on l'entendait hurler sa rage. On nous a dit d'attendre qu'il y ait plus d'études, mais mon fils de 2 ans, il ne sera plus capable de s'asseoir dans 6 mois. Et dans 1 an, il aura une scoliose s'il ne reçoit pas de traitement, s'est exclamée Valérie Beaulieu à sa sortie de la rencontre. Grippe et gastro-entérite, le ministère de la Santé et des Services sociaux appelle à la vigilance. En ce début du temps des fêtes, le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à rappeler les mesures préventives à observer pour réduire les risques d'infection par la grippe ou la gastro-entérite, les actions à prendre en cas d'apparition de symptômes et les ressources disponibles pour mieux y faire face. Cette période qui multiplie les rencontres et les échanges est propice à la propagation des virus. Parmi les précautions habituelles aidant à diminuer cette transmission, rappelons notamment se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, prendre soin de tousser ou d'éternuer dans le pli du coude, ne pas partager de verre et d'ustensiles, rester à la maison en cas d'apparition de symptômes. Les autorités de santé publique du ministère rappellent que chacun peut contribuer à empêcher la propagation des virus de la grippe et de la gastro-entérite par des mesures simples et concrètes. Il est essentiel de garder à l'esprit que ces petits gestes sont des moyens efficaces de se protéger, ainsi que les gens de notre entourage. Il est également recommandé, tout particulièrement aux personnes les plus vulnérables et à leurs proches, de se faire vacciner contre la grippe si ce n'est pas encore fait, en vue de réduire les risques d'infection et de complications graves. We'll be right back. Le regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal se consacre à la défense des droits et des intérêts des personnes ayant des limitations fonctionnelles en matière de transport collectif et j'ai le plaisir de parler avec Serge Poulain, directeur général du regroupement, qu'on appelle aussi le RUTA Montréal. Bonjour, M. Poulain.
Bien, bonjour à vous ainsi qu'à vos auditeurs et auditrices.
Oui, c'est vraiment gentil. Alors, vous êtes avec nous, entre autres, pour nous parler du projet Extra. Qu'est-ce que ce projet?
Alors, qu'est-ce que c'est le projet Extra? Bien, vous savez qu'on est à l'ère du temps réel, des GPS, des Waze, vous savez, toutes ces applications qui nous permettent de suivre une circulation en temps réel. Mm-hmm. Et on sait que de plus en plus, les autobus du transport régulier de la STM sont munis, effectivement. On peut maintenant, même s'il y a encore des problématiques liées à l'accessibilité de ça, mais on peut utiliser l'application Transit pour aller suivre nos circuits en temps réel. Alors, le projet Extra, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a commencé le même processus au niveau du transport adapté.
Ah, c'est commencé?
C'est commencé. Donc, depuis début décembre, dans les minibus du transport adapté, vous allez constater, bien évidemment, pour ceux qui voient, là, la présence de tablettes. Donc, dans les autobus, c'est commencé. Mm-hmm. Et en janvier, on va procéder à l'installation des tablettes dans les taxis de Coop de l'Est. Et, bon an, mal an, on va se rendre comme ça jusqu'à la fin octobre 2018, où là, le système va être en place.
Et quelle est la réaction jusqu'à maintenant des usagers?
Écoutez, on n'a pas de réaction encore, parce que pour la clientèle en tant que telle, pour le moment, comme c'est à petite échelle, je pense qu'ils n'ont peut-être pas tant de rétroaction.
Oui, oui.
Je voudrais qu'au fil du temps, on va en avoir, parce que ça va permettre, entre autres, aux gens du transport adapté d'assurer une meilleure gestion, par exemple, des retards. Ils vont être en mesure, éventuellement, peut-être pas en octobre 2018, là, on s'entend,
oui.
Mais une fois tout le projet appliqué, parce que vous savez, on travaille quand même avec une quinzaine de compagnies de taxi et plus, donc c'est beaucoup de gestion là, pour l'application. Mais une fois que ça va être installé, on va être en mesure de pouvoir, par exemple, appeler les personnes si on a un retard, des choses comme ça. Là.
Mm-hmm. Alors, c'est bien parti.
Ben, je pense que oui, puis je pense que moi, j'appellerais ça une bonne nouvelle pour les usagers. C'est sûr, comme je vous dis, à court terme, demain, on s'en apercevra pas, c'est sûr.
Mais au cours de 2018,
temps, je pense que ça va avoir des bienfaits pour les usagers qui utilisent le transport adapté.
Mm-hmm. Et Laurence Parent, c'est la nouvelle représentante des usagers du transport adapté sur le conseil d'administration de la STM. Elle va siéger à la table transport que RUTA coordonne. Pourquoi c'est important?
Bien, tout d'abord, on tient à féliciter encore une fois Mme Parent de sa nomination. C'est une personne très articulée qui connaît le transport dans plusieurs pays, qui a milité depuis plusieurs années en matière d'accessibilité universelle au transport collectif. Donc, je pense que c'est une personne bien choisie.
Mm-hmm.
Et bien, pourquoi c'est important? Parce que depuis plus d'une quinzaine d'années, on sait que c'est Mme Marie Turcotte qui était notre représentante au sein du conseil d'administration de la STM. Et Mme Turcotte, travailler avec la table transport, parce qu'on sait que la table de transport, ça regroupe plus d'une trentaine d'organismes, donc on cerne l'ensemble des besoins des personnes en situation de handicap dans cette table-là, puis on prend des positions, puis on essaie de travailler ensemble à la réponse des besoins de tout le monde, donc on précise les besoins, puis on cherche des solutions, mais des solutions qui ne viennent pas à l'encontre d'un groupe en particulier, par exemple. Donc, c'est de trouver des solutions qui sont complémentaires et facilitante pour tout le monde.
Oui.
Alors, je pense qu'on peut en profiter pour remercier Mme Turcotte de son excellent travail depuis les 15 dernières années. Et pour nous, on espérait de tout cœur pouvoir donner suite à une collaboration comme ça. Et j'ai reçu cette semaine le courriel de Mme Parent qui se dit très intéressée et motivée à participer aux travaux de la table de transport. Donc, pour nous, c'est une excellente nouvelle d'assurer cette continuité-là. Parce qu'évidemment, nous, en précisant les besoins, puis elle, en étant déjà au courant elle-même, mais en travaillant avec nous, bien, c'est sûr qu'elle va pouvoir porter nos messages au conseil d'administration de la STM. Donc, ce qui nous fait une bonne voix, finalement.
Bien oui, certainement. Vous êtes en confiance.
Oui, bien oui, tout à fait. Puis, comme je vous disais, Mme...
a de l'expérience.
Étant très articulée et déterminée aussi, bien, je pense que pour nous, en tout cas, c'est une belle acquisition, tout en soulignant les efforts qui ont été menés au cours des dernières années par Mme Turcotte. On sait que, en tout cas, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de choses qui ont été réalisées, mais toutes les tuiles dans le métro, l'annonce vocale, tous les refus de transport qu'il y avait à Montréal, il y en avait quasiment 50%, puis là, il n'y en a plus.
Ah, mais tant mieux.
Au transport adapté. Donc, je pense qu'il y a eu un excellent travail de fait, et je suis convaincu que Mme Parent va poursuivre ce travail-là avec énergie et détermination, je suis convaincu. Alors, on est très confiants.
Tant mieux. Monsieur Poulain, le RUTA compte environ 60 membres. Pourquoi on deviendrait membre du RUTA?
Bien, en fait, on devient membre du RUTA pour plusieurs raisons. Premièrement, par solidarité à l'accessibilité universelle au transport collectif. Je pense que ça, c'est la première chose. Mais la chose qui, pour moi, est prédominante, c'est qu'on peut venir parler de nos préoccupations autant au transport régulier qu'au transport adapté. Souvent, les gens pensent que le RUTA s'occupe juste du transport adapté, alors que c'est complètement c'est complètement faux. On travaille autant dans le transport collectif régulier, donc les autobus, le métro et tout ça. Depuis tout le temps qu'on travaille, on travaille dans ça. Alors, c'est peut-être un petit peu moins connu de la part des gens, mais on devient membre chez nous, premièrement pour venir parler de nos préoccupations, partager nos préoccupations en matière de transport collectif, amener nos besoins, discuter avec les autres dans le cadre de certaines rencontres pour justement préciser nos besoins, amener nos opinions lors des assemblées générales. Je pense qu'un organisme communautaire, c'est l'avantage qu'il y a, c'est que l'opinion des gens compte pour nous.
Alors, au lieu de critiquer puis que ça donne rien, aller sur la place publique, en tout cas rencontrer les gens au RUTA puis dire exactement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc. Combien ça coûte?
Écoutez, ça coûte un modeste 5 $ par année.
OK.
Et on communique avec nous. Mais oui, en réponse à votre commentaire, effectivement, quand on est seul dans notre maison ou qu'on parle avec des amis, je dis souvent l'entour d'une bière, puis on chiale, c'est intéressant. Mais on ne va pas plus loin que le thérapeutique rendu là. Quand on unit nos forces ensemble, puis qu'on vient faire des représentations, bien là, je pense qu'on a plus de force d'action.
Alors, c'est sur ces belles paroles, M. Poulain, que je vous dis un grand merci d'avoir été en entrevue aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je suis certaine qu'on va avoir l'occasion de se reparler très souvent en 2018.
Et ça sera un plaisir. J'en profite pour vous souhaiter à vous ainsi qu'à toute l'équipe et aux auditeurs et auditrices un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en pour célébrer avec les vôtres, vous donner de belles douceurs et on va repartir en 2018 avec plein d'énergie.
Merci beaucoup, M. Poulain.
Au plaisir.
Dans la tribune.ca, des cibles à atteindre à tout prix, les soins à domicile, qu'on appelle aussi SAD, sont ciblés parmi les premiers services qui seront financés à l'activité par le ministère de la Santé et de Services sociaux du Québec. Cela explique aussi pourquoi la direction du CIU 3S de l'Estrichus souhaite à tout prix atteindre ses cibles en SAD ou en SAD d'ici la fin de son année budgétaire le 31 mars. Rappelons que le budget des établissements de santé est renouvelé chaque année en se basant sur son historique, ses services et son volume d'activité. Cette méthode est appelée à changer au cours des prochaines années. Mais pour être remboursé pour ses frais engagés, l'établissement devra répondre aux cibles fixées. L'atteinte des cibles en soins à domicile est un incontournable et le fait de ne pas s'y conformer met sérieusement en danger notre équilibre financier, puisque le remboursement des frais encourus est fait uniquement en proportion de l'atteinte des cibles, mentionnent les directives dans leur note de service. Comment le financement va se traduire si nous n'atteignons pas les cibles? On souhaite que les impacts soient minimes, mais comme gestionnaire, on se doit de travailler très fort dans l'objectif d'atteindre les cibles pour éviter de faire face à un déficit, fait savoir Maryse Trudeau de la direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées. Il y a des limites à ce qu'on peut accepter de faire selon ces balises de nos codes de déontologie. Si notre employeur nous demande de rouler à 120 km à l'heure sur l'autoroute pour en faire plus dans une journée, on a le droit de dire non. Nous, c'est exactement la même chose. L'employeur nous demande de minuter nos interventions et de respecter une moyenne, sans tenir compte de la réalité de chacun des usagers rencontrés, lance Emmanuel Breton, directeur de l'APTS en Estrie. Dans la tribune encore, 100 logis pour changer la vie de 100 personnes. 100 nouvelles familles vivant avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle bénéficieront d'un logement abordable, sécuritaire et adapté à leurs besoins d'ici 5 ans en Estrie. Ce projet est évalué à 15 millions de dollars et est le fruit d'un partenariat conclu entre le Fonds immobilier de solidarité FTQ et l'organisme à but non lucratif OBNL Magogwa en logement, en qui s'écrit ici H-A-N. Ces appartements changent une vie, une personne à la fois, se réjouit le directeur général et fondateur de En logement, Paul Champagne. D'ici les 5 prochaines années, on construira en effet 100 nouveaux logements dans des quadruplexes, des logements adaptés aux besoins des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel, à Sherbrooke et Magog dans un premier temps, ensuite à Richmond et Cowansville, puis à Granby dans la dernière phase du projet. En logement a été fondé en 2002 à Magog. Le but de l'organisation? Redonner la dignité et favoriser l'inclusion dans la société à des gens qui souffrent d'un handicap physique ou intellectuel. Et ça fonctionne. Paul Champagne pourrait citer de nombreux exemples de personnes dont la vie a totalement changé après qu'elles aient eu la chance de déménager dans un des appartements levés de terre grâce à En logement. Plusieurs personnes aux prises avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle vivent dans des logements inadaptés, ce qui a un impact sur leur autonomie et leur estime de soi. Depuis 2002, nous avons construit 10 immeubles totalisant 73 logements adaptés aux besoins de cette clientèle, n'ayant pas les revenus pour se loger adéquatement, explique M. Champagne. Je parle maintenant avec Karine Gagné, présidente et fondatrice de l'entreprise FDMT, située à Longueuil. Bonjour, Mme Gagné.
Bonjour, Mme Denis.
D'abord et avant tout, qu'est-ce que l'entreprise FDMT et quelle est sa mission?
En fait, FDMT, sa mission est dans son nom, c'est favoriser le développement maximal de tous. On a parti l'entreprise, mon père et moi, il y a 15 ans maintenant.
Ah oui?
Oui, tout à fait. C'est une entreprise familiale. Mon père s'est retiré maintenant en retraite, mais bon, au tout départ, c'était vraiment pour offrir, en fait, une accessibilité à des produits d'une catégorie particulière au niveau d'intégration sensorielle. On parle d'ergothérapie ici. On parle de produits adaptés pour les enfants dans un premier temps qui ont plus de difficultés. Qu'on parle d'enfants avec un TDAH, qu'on parle d'enfants avec autisme, ou autre anxiété que ce soit, en fait. Et on a créé des produits, en fait, notre gamme de produits qui s'appelle Manimo, qui sont en fait des toutous qui sont lourds. La raison pourquoi on fait des toutous lourds, mm-hmm. c'est que c'est un peu le principe du câlin, donc des pressions profondes qui viennent aider, en fait, à faire un petit reset, je vous dirais, au niveau sensoriel pour aider à avoir un niveau d'apaisement et de calme, mais également un niveau de focus qui va être très intéressant là, pour aider les enfants, mais aussi les adultes, à bien se sentir dans leur corps et à être prêts et aptes à faire des apprentissages. Alors, voilà les petits débuts d'FDMT.
Oui, fait. Quand vous parlez de toutous lourds, pèse combien ces toutous?
Alors, ils pèsent entre 1 et 2,5 kilos.
Ah oui?
Donc, alors, c'est vraiment des toutous qu'on va utiliser de façon, je vous dirais, comme un toutou régulier, dans le sens qu'il va devenir l'ami de l'enfant aussi. Donc, on va lui faire nos confidences et tout ça. Mm-hmm. Mais le côté particulier, c'est qu'on va l'utiliser pour une période de 15 à 20 minutes sur soi. On va le mettre souvent sur nos cuisses. Et donc, on va pouvoir le manipuler en même temps parce qu'il est fait avec des petites billes, qui fait que c'est très agréable à manipuler aussi. Et cet effet-là de pression profonde qu'on a de poids sur nous, va vraiment nous aider à nous apaiser. Un peu comme quand on est enfant, moi, je sais pas, ma mère, elle faisait toujours ça, elle venait me border mon lit très, très fort, mes couvertures, alors elle faisait le même principe-là sans connaître la théorie.
Oui.
Alors, c'est un peu cet effet-là qu'on a avec Manimo de façon très ludique et qu'on utilise de façon à différents temps dans la journée. Donc, on peut l'utiliser le soir à l'endormissement de l'enfant, mais on peut aussi l'utiliser en salle de classe pour les enfants, par exemple, qui rentrent de la récréation et qui vont avoir un surplus d'énergie, qui ont de la difficulté à recalibrer, en fait, là, à ralentir leur moteur un peu. Donc, on peut l'utiliser de ces façons-là en salle de classe pour une 15-20 minutes.
Oh, c'est très sécurisant, puis ben c'est ça, on le prend comme un ami. Alors, Madame Gagné, en janvier, vous proposez différents ateliers. Est-ce que vous pouvez nous les décrire?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, dans l'idée d'FDMT, c'est vraiment de pouvoir favoriser aussi l'apprentissage, que ça soit pour aider justement nos jeunes à avoir un meilleur développement, et ça à tous les niveaux. Donc, en fait, en janvier, on lance les ateliers Pédagotruc, alors qu'ils vont avoir lieu les 13 et les 17 janvier à Longueuil. Et on a deux journées thématiques. Donc, la journée du 13 janvier est une journée réservée pour la clientèle donc de CPE, des centres de la petite enfance, donc les enfants de 0 à 5 ans. On s'adresse évidemment aux éducateurs et éducatrices, mais on s'adresse aussi aux parents dans ces cas-ci. Mm-hmm. Et ce qu'on va avoir comme atelier dans cette journée-là, on a un atelier, dans le fond, qui est sensoriel. Donc, un petit peu ce que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à Manimo, qui est donné par une ergothérapeute, Caroline Mainville. Donc, ça va vraiment être une formation, dans le fond, une partie théorique qui est vraiment dynamique, qui permet vraiment d'explorer avec des exemples concrets, des histoires de cas, toutes les notions théoriques importantes qui sont reliées au système sensoriel. Puis ensuite de ça, ils vont également avoir une portion d'exploration de matériel, de jeux, de stratégies qui peuvent être utilisées là, avec les enfants 0-5 ans.
Alors, tous ces ateliers-là, je vais vous laisser poursuivre après, sont adressés aux éducateurs et aux parents.
Exactement.
D'accord.
On s'adresse vraiment aux deux catégories parce qu'en fait, les enfants, le point de vue sensoriel est utile autant d'un côté que de l'autre, mm-hmm. là, autant pour les parents que les éducateurs.
Et il va en avoir un autre un peu plus tard dans la même journée du 13 janvier sur la motricité globale.
Exactement, qui est donné par Joël Beaulieu, qui est un consultant en motricité, en psychomotricité. Vraiment, ces thèmes-là au niveau de la motricité globale, c'est qu'on va vraiment voir pour aider à comprendre les principes du fondement de la motricité globale. Donc, on parle de tonus, on parle d'équilibre, coordination, les habiletés motrices qui sont fondamentales, dans le fond, pour découvrir et expérimenter là, au niveau du développement de l'enfant, et tout ça dans un contexte ludique.
Mm-hmm. On va s'amuser tout en apprenant.
Ah oui, tout à fait. Effectivement, mais je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre.
Oui.
D'ailleurs, les enfants ont bien compris ça. Le jeu, moi j'appelle ça le jeu, c'est le travail de l'enfant, n'est-ce pas? Donc c'est un peu une façon de bien se développer de cette façon-là.
Oui, bel apprentissage. Et 17 janvier, donc, d'autres ateliers. Cette fois, il y en a trois.
Oui, exactement. La journée du 17 janvier comprend trois ateliers. Et cette fois-ci, on va s'adresser à la clientèle scolaire et donc aux enfants de 5 à 12 ans. Encore une fois, les parents sont le bienvenu parce qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui sont vraiment intéressants qui peuvent être appliqués par les parents dans un cadre à la maison. Les ateliers de cette journée-là, le premier atelier sera un atelier de motricité fine qui va être donné par Caroline Mainville, encore une fois, ergothérapeute. Donc, dans le fond, encore une fois, une partie théorique qui permet de vraiment d'explorer avec des exemples concrets, encore une fois, des histoires de cas. Vraiment l'exploration, dans le fond, pour vraiment comprendre tout ce qui est relié à l'apprentissage de l'écriture. Donc, on va regarder vraiment tous les fondements au niveau moteur, la motricité fine, mais également, on va regarder tout ce qui est adapteur de crayon, les coussins de positionnement, comment on va travailler au niveau du script versus l'écriture cursive, quel type de crayon utiliser à la maternelle pour favoriser le développement d'une bonne prise de crayon, les solutions pour corriger ça, des trucs aussi pour donner des petits exercices qui vont vraiment aider à ce niveau-là.
Oui, alors c'est de la théorie, mais c'est aussi du pratico-pratique.
Exactement.
Et là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Mme Gagné. Oui. Il y aura aussi l'atelier motricité globale, on en a parlé, et aussi sur le TDAH animé par Julie Philippon. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais de toute façon, si les gens veulent avoir plus d'informations ou s'inscrire, comment on fait, comment ils font?
En fait, notre site Internet, fdmt.ca, la section atelier pédagotruc, toutes les informations y sont.
Parfait. Il y aura d'autres ateliers aussi en 2018?
Oui, tout à fait. On a des ateliers de prévus pour la région de Québec les 6 et 7 avril.
Bon, alors là, c'est sûr qu'on va se reparler. Karine Gagné, présidente et fondatrice de l'entreprise FDMT située à Longueuil, merci d'avoir été avec nous et nos meilleurs vœux pour le temps des fêtes qui s'en vient.
Merci. Joyeuses fêtes à toute votre équipe.
Merci.
Au revoir.
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a renouvelé sa commandite à titre de transporteur officiel du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien. L'entente de 4 ans vise les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang et les Jeux olympiques et paralympiques de 2020 à Tokyo. En tant que transporteur officiel du Canada, nous pensons que notre pays mérite d'être célébré, a affirmé Benjamin Smith, président transporteur de passagers d'Air Canada. Les équipes olympiques et paralympiques canadiennes représentent le meilleur du Canada et reflètent l'ambition et la motivation de nos compatriotes. Nous sommes honorés d'être un symbole du Canada qui relie ses athlètes à leur pays pendant qu'ils sont à l'étranger et de contribuer à ce qu'ils arrivent à destination prêts à réaliser leurs meilleures performances. La ville de Luxembourg, parmi les plus inclusives, c'était dans pepperjam.lu. La capitale a récemment été récompensée par la Commission européenne pour sa politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes déficientes. Luxembourg, ville, se classe troisième parmi 26 villes en compétition. L'initiative Access City Award de la Commission européenne, récompensant les villes européennes les plus accessibles pour les personnes handicapées ou âgées, a connu son point d'orgue le 5 décembre dernier. La finale de l'action a permis de départager des finalistes parmi 26 villes participantes. Ljubljana, Sauvleni, bien sûr, c'est bien cela. Lyon, en France, Vibor, au Danemark et Luxembourg-Ville. La capitale luxembourgeoise décroche le troisième prix derrière Ljubljana. La ville de Luxembourg a déployé beaucoup d'efforts pour sensibiliser les citoyens afin d'éviter la stigmatisation en rapport avec l'invalidité et construire une ville hautement inclusive dans laquelle chacun se sent bien, pointe la Commission européenne. C'est la ville de Lyon qui a reçu le Grand Prix pour avoir, suite à une démarche collaborative, adapté ses transports en commun aux besoins des personnes moins valides. L'espace public de la ville a aussi été pensé pour faciliter, par exemple, la vie quotidienne des personnes présentant des déficiences visuelles. 7,8 % des agents municipaux sont des personnes présentant un handicap, la législation française imposant un quota minimum de 6 %. Durant 2018, Lyon est invité à profiter du prix pour répandre un message de véritable inclusion qui passe avant tout par un dialogue permanent avec les personnes concernées. Horaires du service du transport adapté de la STM pendant les fêtes, les heures de service seront prolongées du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement. Vous pourrez réserver un déplacement jusqu'à 4 heures du matin, heure d'arrivée à destination. La demande devra être faite au moins 24 heures avant le déplacement. À partir du lundi 25 décembre, tous les horaires réguliers sont annulés jusqu'au mardi 2 janvier inclusivement, sauf pour les clients en hémodialyse avec des déplacements réguliers. Pour fêter en grand l'arrivée de la nouvelle année, le service sera offert toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Pour en profiter, réservez vos déplacements avant 21h le 30 décembre. Le métro sera également ouvert toute la nuit. Une autre façon pour nous de vous souhaiter une bonne année. C'est tout pour les paractualités de ce 20 décembre. Merci à mes invités, Serge Poulin et Karine Gagné. Un grand merci à ma recherchiste, Anne-Laure Janson, et à la technique, Maurice Bolduc. Ici Hélène Denis, merci à vous d'avoir été là et on se retrouve demain pour la dernière des paractualités de 2017.